Plusieurs raisons bibliques président pour faire que Jésus ne posa plus jamais son pied sur le sol terrestre. Réaliser pleinement cette vérité essentielle conduit à répudier le concept humain purement matériel et même territorial du royaume de Christ. De plus, cela permet de regarder par-dessus un monde dirigé par le péché vers le jour béni, où ceux qui auront été appelés hors des ténèbres par leur obéissance et leur fidélité à l'Évangile entreront au ciel avec leur Seigneur. Ces êtres-là auront affirmé leur vocation et leur élection. Pierre dit que c'est ainsi, en effet, que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ vous sera pleinement accordée. La première des raisons pour lesquelles Jésus ne reviendra pas sur terre nous est donnée en Jean chapitre 14, rapportant certaines paroles de Jésus. Ne soyez pas inquiets, que votre cœur ne soit pas troublé. Vous avez foi en Dieu, ayez foi en moi aussi. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place. Si ce n'était pas vrai, est-ce que je vous aurais dit, je m'en vais pour vous préparer une demeure? Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez, vous aussi, là où je serai. Notons bien cette promesse formelle d'un retour de Christ. Lorsque je vous aurai préparé cette demeure, je reviendrai. La seconde venue de Christ est un des sujets prédominants du Nouveau Testament. Environ un verset sur 25 traite ce propos. Directement ou indirectement, j'entends. Tous ceux qui croient à l'inspiration divine du Nouveau Testament savent que Jésus reviendra. Le Seigneur dit qu'il va préparer une place pour son peuple. Mais supposons un instant que Jésus est avancé. Je vais au Père et un jour je reviendrai sur la terre pour régner 1000 ans à Jérusalem. Éprouverions-nous une quelconque difficulté à le comprendre? Alors comment se fait-il que certains n'arrivent pas à saisir que Jésus est parti afin de nous préparer une place? Étrange, ne trouvez-vous pas? Nous n'avons pas non plus à spéculer à propos de la destination de notre Sauveur lorsqu'il quitta cette terre. Heureusement, la parole de Dieu nous dit quand son ascension eut lieu. Le ciel où il se trouve maintenant est le même ciel qu'habite le Père Céleste. Mais vérifions si cela est bien vrai. Le prologue de l'Épître aux Hébreux démontre que le Fils de Dieu est le porte-parole ou le prophète de l'Éternel envers la famille humaine. Ce prophète est également le souverain sacrificateur et celui qui, par sa mort, a fait la purification des péchés. Ce sauveur est également roi, car il s'est assis à la droite de la majesté divine dans les lieux très hauts, nous dit Hébreux chapitre 1, verset 3. Si Jésus s'est bien assis à la droite du trône de Dieu, n'est-il pas indubitablement au ciel auprès de Dieu? L'épistolier aux Hébreux dit encore, car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, par l'imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous, devant la face de Dieu. Quand Jésus quitta la terre, c'était bien pour monter au ciel et personne ne peut le nier. La parole de Dieu le dit ici et ailleurs, comme en Actes chapitre 1 et verset 2. Jésus fut enlevé au ciel. Ensuite, le Seigneur se trouva devant la face de Dieu. Lorsque Jésus quitta cette terre, ce fut pour aller préparer une demeure à ses fidèles. Tout ceci nous amène à dire deux choses. Tout d'abord, que lorsqu'il viendra à notre rencontre sur les nuées, nous serons ensuite reçus dans une demeure préparée d'avance. Le Seigneur a promis. Dans la maison de mon Père, il y a beaucoup de place, et je m'en vais pour vous y préparer une place. N'est-ce donc pas au ciel que cette place sera prête? Qu'en pensez-vous? Ensuite, le Seigneur s'est encore engagé envers ceux qui l'auront suivi. Je vous prendrai avec moi, si bien que vous serez vous aussi là où je serai. Est-ce sur terre ou dans le ciel? Quelque chose cloche quelque part, et il est évident que vous avez bien trop de discernement pour vous laisser prendre à des balivernes et autres fables en provenance directe du monde sur lequel nous vivons et non du ciel. Mais à propos, êtes-vous prêt à vous porter à la rencontre du Seigneur? J'aimerais partager avec vous un extrait de poème de Madame S. Bell. Il est intitulé « Si je n'avais plus que 24 heures à vivre ». S'il ne me restait plus que 24 heures à vivre, je commencerai ma journée à 1h du matin. Étant une femme, j'aimerais que ma maison soit nette et propre. Alors je mettrai vite tout en ordre. J'essaierai d'avoir tout en place de manière que Jacques, Evelyne et Valérie puissent trouver ce dont ils auraient besoin sans mon aide. Vous savez comment ça se passe. Maman, où sont mes bas? Et chérie, qu'as-tu fait de mauvais transport? J'aimerais aussi que ma famille qui écrirait la tarte aux pommes dont Jacques raffole. Tout cela ne devrait pas prendre trop de temps, car je me dépêcherai. Chaque instant est précieux, vous savez. Puis je passerai une robe de chambre bien chaude. Et j'irai dehors pour me bloquer sur les fauteuils du jardin et regarder une dernière fois le soleil se lever. Je m'émerveillerai de la beauté de la légère brume qui toujours flotte dans le creux là-bas, de l'autre côté de la route. J'entendrai le léger gazouillis d'un oiseau s'éveillant et je saisirai une dernière fois l'éclat d'une étoile qui disparaît. Bientôt à l'est, le ciel se transformerait en un kaléidoscope de couleurs et le soleil, le vent, noirait le paysage sous sa splendeur dorée et transformerait la rosée en gouttes de diamant étincelant. Et je trouverai la paix et la joie dans la magnificence de l'œuvre de Dieu. Chers auditeurs, nul ne peut prévoir sa propre fin, ni celle du monde. Quelle sera votre attitude à cet égard? Placerez-vous votre confiance en un règne terrestre du Seigneur durant 1000 ans, ou attendrez-vous une place au ciel?
Alléluia, alléluia, alléluia.
Thank you.